Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Vous êtes sur Radio Campus Tour 99.5 et vous écoutez le premier épisode de cette nouvelle émission qui s'appelle Ménage-toi Simone.
Ah, les bonnes femmes. Je préfère voir tes fesses que ta gueule. Elles sont plus agréables à regarder.
Justement, est-ce que je pourrais avoir une autre de vos petites putes asiatiques? La mienne est morte.
Ménage-toi Simone.
Ménage-toi Simone, c'est une nouvelle émission proposée par le réseau des jeunes ambassadrices de l'égalité femmes-hommes. Ce réseau, c'est un réseau bénévole non associatif. C'est un collectif de bénévoles qui est jeune, donc inclus entre 18 et 30 ans, et qui est mixte. On se réunit une fois par mois au Bige pour traiter de la cause de l'égalité femmes-hommes et monter des actions, et notamment cette émission est une action proposée est créé par ce réseau des ambassadrices de l'égalité femmes-hommes en partenariat avec Radio Campus. Autour de la table, donc, on a des membres de ce réseau. On va chacune se présenter. Romane.
Bonjour, je m'appelle Romane, je suis étudiante en licence de sciences du langage à l'université François Rabelais de Tours. J'ai découvert le réseau des jeunes ambassadrices avec Zoé lors d'une soirée étudiante un peu par hasard. On a rencontré les volontaires en service civique et du coup on a été à la première réunion de réseau et ensuite on s'y est attaché et nous voilà.
Et justement, nous avons aussi Zoé autour de la table.
Donc salut, je m'appelle Zoé, j'ai 18 ans, je suis étudiante en première année de licence d'anglais à l'université de Tours aussi. Et puis bah, du coup, j'ai découvert le réseau avec Romane, donc vous avez déjà l'histoire.
Et bah, bonjour, je m'appelle Aline, donc j'ai 22 ans et je suis actuellement volontaire au BIJ 37, donc Bureau d'information jeunesse, sur la mission suivante, sensibilisation à l'égalité femmes-hommes. Je suis également avec trois autres volontaires. Ce sont mes coéquipiers dans toutes les situations avec qui on est, disons, très chaud pour le réseau et qui sont exactement présents dans la salle.
Ils sont là aujourd'hui.
Et voilà, je suis une ancienne au pair qui était aux États-Unis et je compte suivre encore mes études de gestion. Et voilà.
Très bien. Quant à moi, je suis Merlin, j'ai 23 ans et je suis éducateur scolaire. Je travaille dans une école, l'école démocratique de Tours qui s'appelle Le Point d'eau. On a la technique Romane. Merci Romane pour... Voilà. Et donc on l'a dit dans la salle également, un public pour cette première. Le public, faites du bruit.
Ouais.
Merci beaucoup. Donc, ce public est composé de Rémi, de Laurane, de Valentine et d'Ophélie. Merci d'être là, merci de nous supporter.
Nous soutenir aussi.
Oui. Alors on va commencer par des petites actualités concernant justement l'égalité femmes-hommes. On a deux actualités à traiter ensemble et puis une troisième qui va nous permettre d'introduire la discussion qu'on fera après la première pause musicale. Alors Aline, est-ce que tu veux commencer avec la première actualité?
Alors pour ma première actualité, j'ai choisi... celle du 6 novembre 2018, donc Alexandra Ocasio-Cortez, qui fait partie du Parti démocrate américain, est devenue la plus jeune élue représentante du Congrès américain. Avec elle, une vague de femmes et de minorités sont arrivées au pouvoir. Il y a également eu deux femmes amérindiennes et deux femmes musulmanes qui sont rentrées donc au Congrès. Je l'ai choisie parce que dans l'Amérique de Trump, président sexiste au possible... Eh bien, c'est vraiment une bonne nouvelle.
Super. On a une deuxième actualité de Zoé.
Ouais, alors du coup, pour cette actualité, j'ai décidé de parler de Yann Moix et de sa maintenant célèbre interview pour Marie-Claire. Donc en fait, pour son numéro de janvier, Marie-Claire a reçu Yann Moix qui en a profité pour déclarer que les femmes de 50 ans pardon, sont pour lui, je cite, « invisibles et leur corps pas extraordinaire du tout ». Donc ces propos ont largement choqué les médias qui dénoncent en fait un manque de visibilité de ces femmes, mais aussi une mort sociale qui leur est imposée par ce genre de message, incitant à croire en fait à un corps périmé à un certain âge.
Merci. Et donc troisième actualité, pardon. De Romane, on t'écoute.
Alors, ce 9 janvier, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État en charge de l'égalité hommes-femmes, a publié sur Twitter plusieurs captures d'écran des insultes qu'elle a reçues. Donc, je cite, « Putain juif, putain de l'Élysée, vous mériteriez de recevoir un flashball dans la tête. » Et elle précise que cela arrive par milliers chaque jour, par message ou par téléphone. Comme quoi, C'est un secrétariat toujours très d'actualité pour le féminisme.
Très bien, merci. La dernière actualité, donc on présente avant la pause musicale, elle est un peu moins récente, mais c'est parce que dessus on comptait faire une petite discussion. Ça concernait donc la cérémonie de remise du Ballon d'Or qui a eu lieu donc à la fin 2018. Est-ce qu'on réintroduit un petit peu les faits? Et puis ensuite, après la pause musicale, on discutera un petit peu de ça. Donc, qui veut expliquer ce qui s'est passé lors de la cérémonie du Ballon d'Or en décembre, je crois? C'était en décembre 2018?
Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était le premier Ballon d'Or féminin, enfin, à être remporté par une femme, donc Anna Heiderberg, et le présentateur de l'émission, donc... Martin Solveig, pardon, a demandé à Anna Heiderberg si elle savait twerker. Donc évidemment, ça a provoqué quelques débats.
Et qu'il n'a pas demandé la même chose aux autres
évidemment.
Gagnants du Ballon d'Or, évidemment.
Voilà, ça marche. On reviendra sur ça juste après la première pause musicale. Et cette première pause musicale, c'est Eddie Depreto, Quartier des Lunes.
Je colonise ton sein pas à pas, je domine le reste. Tout ça m'appartient en deux et en un seul geste. Tu seras le mien, tu verras, je serai ta secte. Je t'érigerai exactement tout comme je le souhaite. Je marquerai ton bout de mes visques suçons, pour pas que tu cours vers d'autres vices cochons. Je tâcherai ta mouille à l'un de tes cheveux longs, de mon drapeau rouge et de mes imposants jurons. Tu ne seras que fier quand alors tu joueras les mères, lorsque je t'offrirai soudain tout un tas de joyeux gamins. Tu n'auras qu'à faire à l'heure et surtout bien te taire. Tu auras alors à terme une grande envolée de bons points. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. J'épuiserai ta flamme pour remplir mes mains du nerf de la guerre et comme un grand malin. Moi je jouerai aux dames, moi je ferai conquête, sans trop que je tarde, juste un poil malhonnête. Tu seras sans fringue et bien à ma guise. Je t'habillerai de rien, juste de poigne possessive. Ils le verront bien que la terre est déjà prise. Ils verront mon flingue, oui mieux que ma main mise. Me chargerai aussi que tu n'aies plus de choix. T'étaleras ainsi tout un tas de lois que tu repasseras sans te commander, car il n'y a que toi qui sais bien les plier. Puis je te caresserai comme pour t'apaiser, t'imposerai des chutes pour pas te révolter, te bloquerai la nuque sans que tu révulses, et je serai doux pute. Je serai fou. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. Quoi, n'as-tu plus besoin de mon torse? Quoi, n'as-tu plus besoin de moi lorsque dans la rue tu seras seul sans escorte? Dis-moi, comment vas-tu faire sans écorce? Quoi, n'as-tu plus besoin de conseils? Quoi, n'as-tu plus besoin de mes règles? Entends mes forts, je t'aime et te surveille. Tu verras comme dehors c'est sans soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil.
Et donc c'était juste avant Eddie Depreto, Quartier des Lunes. Donc on revient sur l'actualité qu'on vient de présenter juste avant, la cérémonie du Ballon d'Or 2018 qui a récompensé pour la première fois une femme. Et donc on va se faire une petite discussion autour de ce qui s'y est passé, à savoir, comme on l'a rappelé juste avant, que le maître de cérémonie a demandé à cette sportive de haut niveau, et même la meilleure de sa discipline, si elle savait twerker. Alors qu'est-ce que ça a de dérangeant et quelle réaction ça a provoqué sur les réseaux ou à travers le monde?
On demande aux hommes leur talent, on constate leurs compétences en matière sportive et notamment de foot là en l'occurrence, et à Anna Heiderberg, qui est une femme, donc on lui demande si elle sait twerker, comme si c'était sa seule le seul truc qu'elle savait faire, le seul truc pour lequel elle avait un intérêt, savoir si elle sait bouger ses fesses. Et au final ça a pas tellement un intérêt
elle a failli quitter la scène d'ailleurs quand elle lui a posé la question, et en fait elle s'est pas du tout rendue compte de ce qui s'était passé, parce que elle était tellement heureuse du prix, de la cérémonie, etc., que quand elle lui a posé la question, effectivement elle a trouvé ça dérangeant sur le moment, mais c'est après, en sortant célébrer l'événement, qu'elle s'est rendue compte que finalement on en parlait énormément, et son propre fiancé en fait a réagi en disant que il trouvait pas ça forcément sexiste, donc après c'est débattable, mais il trouvait ça bizarre. Et c'est peut-être une bonne nouvelle de dire qu'au final, aujourd'hui, un événement comme ça qui aurait pu passer inaperçu il y a quelques années, on trouve ça dérangeant et on trouve pas ça normal qu'un maître de cérémonie pose ce genre de questions à effectivement une sportive de haut niveau.
D'ailleurs, Aline, j'avais pu voir juste après la réaction d'Andy Murray, qui est un champion de tennis britannique, qui a poussé un sacré coup de gueule sur les réseaux par rapport au fait que justement ce genre de remarque, c'était un peu un nouvel exemple de sexisme absurde qui existe toujours dans le sport. Donc, comme quoi on peut être un homme et justement se battre pour l'égalité femmes-hommes, c'est pas un problème du tout. Puis on a également pu voir au moment où il a posé la question à Ada Danberg, Martin Solveig, que même les autres sportifs qui étaient présents dans la salle, comme Kylian Mbappé, regardaient le maître de cérémonie genre... C'est quoi ce genre de question?
Il y a eu un moment de malaise énorme.
Mais oui, c'est voilà. Plutôt positif, quoi. Enfin, que les gens soient gênés. Oui.
Donc, et lui-même s'est excusé après, d'ailleurs.
Oui, il y a eu de la gêne quand même sur le moment. Même si Anna, en particulier, elle était, comme elle a dû être assez émue de recevoir ce ballon d'or, en effet, elle n'a réagi qu'après. Mais on a quand même senti la gêne, premièrement, au moment où, enfin, sur la scène, lors de la cérémonie. Puis ensuite, derrière, il y a eu aussi beaucoup de prise de conscience, de réflexion par rapport à ça.
Et elle expliquait notamment dans une tribune qui s'appelle Pas ici pour danser, qu'elle a grandi donc, en Norvège, et elle a grandi dans une communauté de 7000 habitants, et qu'au final, elle faisait du foot, mais c'était pas, elle faisait pas du foot, même si elle était une fille, en fait. Elle en faisait au même titre que les garçons, et que pour elle, c'était juste une histoire de respect, et qu'elle l'avait pas ressenti du tout comme ça, et qu'elle s'était confrontée en fait, à un monde dont elle avait pas connaissance, mais qui était complètement absurde, en fait.
Mais après, voilà, parfois, il faut juste se rendre compte que c'était vraiment un événement spécial. Un ballon d'or féminin, c'est le premier. Alors, quand on sait que le premier match de football féminin s'est déroulé en 1917, on revient quand même de loin. Et voilà, c'est un moment
c'est
où...
C'est le cas de le dire.
C'est un moment où, voilà, fallait éviter. Il faut réfléchir, justement, à la portée de ce message.
Oui. C'est sur ça que je voulais... sur quoi je voulais vous lancer. En fait, qu'est-ce que cet événement, ça dit de la place des femmes dans le sport d'une manière générale? Est-ce qu'on a d'autres cas de figure où il y a eu des cas de sexisme flagrants, même à haut niveau, dans le sport, dans des compétitions internationales?
Aline. On parle de Serena Williams et sa tenue de panthère que j'ai trouvée géniale. En plus, voilà, elle venait de donner naissance, elle avait des problèmes, je crois, au niveau du sang, donc elle avait besoin d'une tenue spéciale, qui d'ailleurs est très belle. Elle a un côté très combattante, moi j'ai adoré, et non, ça a été un gros problème parce qu'elle ne suivait pas... les règles du tennis en portant cette tenue.
Mais au final, les femmes, on s'inquiète de leur tenue. Un mec qui arrive en tong et en t-shirt, personne va lui dire « Ah là là, scandale, vous n'êtes pas bien habillée ». Une femme, on va regarder si elle a mis une robe, si elle a mis un soutif, si elle a bien mis ça, si on voit ça, etc.
Totalement.
Et au final, on détourne totalement le sujet. Dès qu'on parle des femmes dans le sport, on revient à qu'est-ce que la féminité, est-ce qu'elle est sexy, est-ce que c'est quand même une femme si elle fait du sport, est-ce qu'elle est quand même féminine, est-ce que c'est pas un garçon manqué, est-ce que c'est pas une femme masculine, pourquoi elle fait du sport? Et on s'intéresse pas tellement à ses compétences, à son talent, alors que les hommes, clairement, on va s'en foutre de savoir comment ils sont fringués, on s'intéresse à leur qualité.
Que ce
quoi.
Soit aussi bien les téléspectateurs que les commentateurs,
oui, totalement,
qui
totalement.
Font des commentaires sur le sourire, les cheveux, le machin. Il y a des commentateurs qui parlent des gymnastiques chinoises, des gymnastes chinoises, pardon, comme des petits Pikachu, enfin ce genre de truc qui est complètement aberrant en fait.
C'est quoi le rapport?
Et ou de Ledecky par exemple, qui est une nageuse, elle nage comme un homme. Enfin, c'est le genre de réflexion qu'on entend, quoi. C'est...
Bah justement, il y a donc Nicolas Barre, qui est une ancienne grande joueuse de foot, qui était aussi ancienne capitaine de l'équipe de France, donc voilà, elle a un sacré niveau. Quand on lui posait la question, vous êtes quand même un peu, enfin voilà, un garçon manqué, parce que voilà, à cause du foot, parce qu'elle fait du sport, j'imagine. Eh bien, elle a toujours répondu non, j'ai toujours été une fille réussie. Et je trouve que j'aime bien ce genre de réponse, ça change un peu la donne.
Je vois, par exemple, pour revenir au Ballon d'Or, le président de l'Olympique Lyonnais, donc le club d'où vient Anna Heiderberg, a eu une interview par le journal L'Équipe, qui est quand même un journal très connu dans le monde du foot et du sport en général. La question était, quel regard portez-vous sur votre joueuse? La réponse, donc blablabla, une vraie jeune femme avec la qualité de l'élégance et de fierté qui la caractérise. En plus, c'est une femme qui vit sa féminité comme les autres. Cette féminité qui fait que tout le monde l'adore. Comment dire que le seul regard qu'il porte sur sa joueuse, c'est son élégance et le fait que bah, c'est quand même une vraie femme. Et c'est parce que c'est une vraie femme qu'on l'aime quand même, même si elle fait du foot. Elle montre, elle arrive à la cérémonie en robe, les cheveux détachés. Et au final, c'est ce qui fait que ça reste une femme si elle fait du foot et on peut quand même l'apprécier.
Oui, on a l'impression dans ce commentaire-là que faire du foot, jouer au sport, c'est pas jouer, faire du sport, c'est pas compatible avec l'idée de féminité.
Ouais.
Et que voilà, on peut être une femme et faire du sport, mais sa féminité se trouve ailleurs. D'après ce commentaire-là, ce qui est dérangeant d'ailleurs.
Et excusez-moi, mais une vraie jeune femme, ça veut dire quoi? Enfin, une fausse femme, c'est quoi? Et à la limite, chacun a la liberté d'être qui il veut, comme il veut.
Et choisir son corps, quoi.
Ouais, voilà, il n'y a pas de... Enfin, voilà, on n'aurait pas... Enfin, j'estime qu'on n'aurait pas besoin de se justifier pour savoir... ah oui, je suis une vraie femme. Oh, une demi-femme. Oh, une fausse femme. Mais juste, on s'en fout, en fait.
Puis en plus, le gros problème, c'est que du coup, le sport, on en a... C'est un phénomène essentiellement médiatique et on n'en a que une vision à travers les médias. C'est-à-dire que c'est eux qui nous disent ce qu'ils en pensent parce qu'il y a les analyses, mais aussi les résultats, etc. On n'a pas tous la chance d'aller voir un match en direct, etc. Et du coup, il y a plus de facilité pour les garçons parce que les médias qui vont faciliter voilà, la voix pour les hommes, etc., vont pas le faire pour les femmes. Et du coup, c'est un cercle vicieux, en fait.
Comme on peut voir à chaque grand événement, voilà, les matchs de, par exemple, football féminin, handball féminin, volleyball, basket, je sais pas, à peu près tous les sports, les médias, ils donnent pas assez de voix. Enfin, souvent, si tu veux regarder un match, faut regarder sur TMC, c'est pas sur la TF1 par exemple. Enfin, c'est un peu des petits exemples comme ça, mais ça montre bien. Et même si c'est une histoire de marché, que le sport avec des hommes c'est plus rentable à certains niveaux, c'est pas parce que c'est le marché qu'on peut pas changer les choses à plein d'échelles.
Oui, d'ailleurs, à la fin 2018 aussi, on a eu l'équipe féminine de handball.
Oui. Qui était championne d'Europe.
D'Europe.
Bravo.
Et qui en a entendu parler.
Très peu de monde, en fait. Je sais
en
pas.
Fait, c'est parce que les investisseurs cherchent des équipes qui vont leur rapporter, enfin, qui, du coup, une visibilité dans les médias. Et qui a cette visibilité? Bah, ce sont les hommes. Il y a une étude de Cambridge qui a prouvé que les femmes sont 3 fois moins représentées que les hommes dans les médias au niveau du sport. C'est énorme.
J'ai regardé sur YouTube, si on tape Ballon d'Or. Première position avec 444 000 vues, on a la cérémonie de remise de prix pour Luka Modric, donc Ballon d'Or masculin. Et en 14e position, publiée à la même date, pour 100 000 vues, on a la même chose pour Anna Heiderberg. Comme quoi, je veux dire, le nombre de vues, le nombre de positions, même YouTube met moins en avant les choses. Et quand on voit le nombre d'abonnés sur Instagram ou sur Facebook des différentes pages qui sont au final les mêmes, franchement, c'est vraiment affolant, quoi.
Puis du coup, ce manque de visibilité, ça fait moins de modèles pour des enfants qui auraient ce rêve-là, mais qui se voient pas le faire parce que, justement, elles ont pas de modèle à suivre. Par exemple, il n'y a pas d'album Panini pour les footballeuses, alors qu'il y en a un. Enfin, c'est quand même un truc hyper important pour les enfants, etc. Et il n'y en a pas pour les footballeuses. Qu'est-ce que ça dit au final?
Ouais, moi, j'ai aussi trouvé que les femmes, bon, c'est pour le football, mais par exemple, les femmes sont obligées de travailler à côté, quoi. De faire leur match et de travailler à côté, alors que on sait bien que les footballeurs, j'imagine bien que Neymar, il n'y a pas besoin de travailler comme caissier au supermarché.
Comment non, ça
il y a pas de, en fait, il y a pas de SMIC dans le sport pour les femmes, ce qui fait que bah, du coup, elles peuvent l'avoir en tant que, elles peuvent faire du sport en tant qu'amatrice, mais à partir du moment où elles veulent passer en haut niveau, bah, c'est plus possible parce qu'elles peuvent pas conjuguer leur travail à côté et le sport, leur passion.
Et c'est d'ailleurs, je crois, dans le discours de Anna, la sportive Ballon d'Or pour 2018, c'était ce qui ressortait principalement, c'est qu'elle était fière de devenir cette icône, ce modèle pour toutes les jeunes filles qui voulaient se lancer, faire du sport, soit en loisir, soit dans se lancer pour du professionnel, du sport professionnel.
C'est une vraie image pour les petites filles.
Je reviens, Zoé, sur ce que tu disais par rapport au panini. En France, on n'a pas de panini pour le foot féminin, mais en Allemagne, les premiers panini pour le football féminin ont été faits en 2011.
Oui, l'Allemagne, comme quoi, c'est extraordinaire pour ça.
La France a vraiment un sérieux problème avec ça, quoi, vraiment.
Bah, c'est très...
En Allemagne, la Coupe du Monde de football féminin, elle a réuni 17 millions de téléspectateurs, qui est la meilleure audience de l'année.
Non mais...
Et enfin, rien que ça, les chiffres sont impressionnants, quoi. Et j'aime bien cette phrase de Béatrice Barbus, qui a écrit un livre qui s'appelle Du sexisme dans le sport. Et elle dit: on montre le visage des hommes et le corps des femmes.
Exactement.
Oui.
Et ben, c'est sur ça qu'on va terminer cette discussion. Merci à toutes les trois. Donc voilà, on a donné plein de petites références au sein de cette discussion. Vous pouvez forcément retrouver tout ça sur Internet.
Et on espère que ça va changer. Bientôt.
Exactement. Voilà. On va passer à la chronique de l'émission. Et aujourd'hui, c'est Romane qu'on écoute pour une chronique sur...
la condition des femmes migrantes en France.
C'est parti.
Donc je vous propose ce petit aparté pour vous montrer que le féminisme est encore d'actualité en France et partout ailleurs. Ma chronique est donc sur les femmes migrantes en France, un sujet dont on parle peu, voire pas du tout, et pour preuve que le sujet n'est pas suffisamment mis en avant, il a été très difficile de trouver des informations et des chiffres sur tout ça. On parle souvent des migrants comme un terme un peu générique, un mot un peu fourre-tout de tout ce qu'on connaît pas. J'ai réalisé un mini-sondage dans mon entourage, donc voilà à peu près quelques chiffres. 15% des gens pensent qu'elles sont dans la rue, soit sans domicile, soit dans des réseaux de prostitution. 19% pensent qu'elles sont chez elles ou chez un proche. 21% ne savent pas. 23% pensent qu'elles se cachent. Et 42% pensent qu'elles sont prises en charge par les diverses associations et organismes sociaux. Chaque année, arrivent environ entre 50 et 60 000 demandeurs d'asile en France. En 2017, les femmes représentent 35%. Les raisons de leur départ sont multiples et reprennent dans un premier temps celles de la plupart des migrants masculins. Mais nous retrouvons des thématiques qui leur sont bien particulières. Par exemple, mariage forcé, violence sexuelle, violence ou pression conjugale et ou familiale, mutilation sexuelle, telle que l'excision, qui engendre de graves conséquences sur la santé jusqu'à parfois la mort, et par exemple des pertes de leurs droits, tels que l'avortement, le droit du travail, droit à la liberté de circulation, liberté ou même possibilité d'expression, consentement, droit de vote, et j'en passe. Avant d'arriver en France, leur parcours est semé de quelques minimes embûches. Elles partent de leur pays, puis cette fameuse route de migration, où elles doivent payer de leur corps, de leur vie pour passer des frontières. En groupe, 7 hommes pour 3 femmes, qui sont considérés comme des objets, des possessions ou des réservoirs. Je m'abstiens de vous faire part des conditions dans lesquelles elles cheminent en espérant la liberté à leur arrivée. Mais que leur offre la France ? Aux frontières, une zone d'attente. Les conditions y sont optimales, un hôtel 5 étoiles, une poignée d'hébergement à leur disposition pour des centaines d'arrivants, une assistance médicale si possible, et bien sûr si on parle arabe, anglais ou français, et bien sûr, pour ce qui est de leurs droits, une permanence téléphonique est proposée. Ensuite, la préfecture étudie les dossiers, leur accordant un titre pour rester ou pas, réfugié pour 10 ans, protection subsidiaire pour 1 an, ou retour. Et les femmes dans tout ça, où sont-elles ? Cachées derrière leur mari, non prises en compte car elles ne parlent souvent ni anglais ni français. Accéder à leur récit est une chose très difficile. Il y a toujours un filtre qui minimise ou rend inaudible leur expérience traumatisante. Les autorités et les professionnels ne sont pas formés aux violences de genre. Ainsi, elles sont dans des conditions pas suffisamment attentives et rassurantes pour se livrer, et souvent elles se découragent car en face, le terme de violence renvoie à une généralité banalisée. France, pays où à l'administration splendide. Et oui, vous avez dit mariage forcé, mais prouvez-le. Pour que cela soit pris en compte comme facteur de danger pour accorder l'asile, il faut que le pays de la migrante n'accorde pas le consentement, et que cela soit reconnu au niveau institutionnel. Dans ce cas, c'est le pays qui est en tort. Mais si le mariage est forcé dans un cadre familial, où la pression peut aller de l'enfermement au meurtre, et qu'il suffit à la femme de porter plainte dans son pays qui va bien sûr la mettre en sécurité et la prendre en charge, cela ne regarde pas la France. Donc, retour, caisse départ. Néanmoins, dans la réalité des faits, prouvé et justifié, avec des preuves, des témoignages de proches qui vous ont chassé, répudié, banni, oublié par honte de votre fuite, dans une langue étrangère, dans un état psychologique déplorable et avec une écoute remplie de préjugés, cela semble bien improbable. Comme si cela ne suffisait pas, on demande un certificat de non-excision aux femmes qui jugent être exposées au risque. Une fillette ou une jeune femme qui doit, après tout ce joli voyage, recevoir un examen gynécologique que l'on espère bienveillant pour prouver qu'elle n'a pas déjà subi une mutilation. Et si c'est le cas, eh bien c'est trop tard. Ça ne sert plus à rien, le risque est déjà fait. Retour. Certificat, évidemment, à renouveler chaque année et sans prise en compte thérapeutique, chose qui a été jugée comme contraire à la non-malfaisance des gestes médicaux. Il ne faudrait quand même pas qu'elle nous mente, donc on a besoin de preuves coûte que coûte, quitte à faire du chantage à l'asile. En France, elles sont la plupart du temps employées de maison, travaillant dans le domaine sanitaire et social, ou hébergées dans des centres sociaux pour celles qui s'en sortent. Et pour les autres, c'est la rue, sans domicile ou sur le trottoir, forcées à vendre leur corps pour manger, pour leur enfant. Leur corps comme monnaie d'échange contre un hébergement, comme moyen de pression, comme seule issue. Rappelons qu'au niveau international, le commerce sexuel et l'exploitation des migrantes clandestines représentent le troisième revenu illicite après les armes et la drogue. Les proxénètes vont jusque dans les hébergements sociaux pour les chercher, les menacer, leur faire croire qu'elles sont redevables. Chiffre affolant. 30% des migrantes africaines attrapent le VIH-SIDA une fois arrivées sur le sol français. En gros, une femme africaine migrante, séropositive en France, a été en moyenne 4 fois plus violée que les autres. Voici un témoignage d'une soignante bénévole à Calais, recueillie par le journal Le Monde à propos d'une érythréenne de 25 ans. Elle avait passé la nuit dehors et paniquait à l'idée d'en passer une seconde, car des hommes avaient voulu l'emmener de force dans leur tente. Nous avons appelé le centre Jules Ferry, qui l'a inscrite en position 56 sur la liste d'attente. Nous nous sommes vus lui donner un duvet et lui trouver un petit coin dans la tente d'une autre érythréenne. Le lendemain, on l'a trouvée en pleurs. On saura seulement que le mari de l'autre femme était revenu ivre dans la nuit. Elle gardera pour elle les détails et nous notre honte de ne pas l'avoir mise à l'abri. Franchement, même si des organismes et des associations se battent pour leurs conditions, on n'a pas le cul sorti des ronces.
Merci Romane pour cette chronique. Est-ce qu'on pourra retrouver le texte sur le blog?
Oui, je ferai un article sur tout ça.
Super, donc le blog du réseau des jeunes ambassadrices de l'égalité femmes-hommes, ça se trouve sur WordPress. Donc https://ambassadrices-de-l'égalité-femmes-hommes, sans accent, sans espace, .wordpress.com. Merci pour cette chronique, Roman. Et donc, on va faire maintenant la deuxième pause musicale. On va écouter Aretha Franklin, Respect. Aretha Franklin qui nous a quittés l'année dernière, en 2018. On écoute Respect.
Just a little bit.
C'était Aretha Franklin, Respect. Donc après cette chronique créée et racontée par Roman, on va passer aux bonnes nouvelles concernant l'égalité femmes-hommes. On a trois bonnes nouvelles aujourd'hui et la première nous est racontée par Aline.
Donc moi j'ai choisi un article de Première qui s'appelle « Les blockbusters portés par des femmes marchent mieux au box-office ». Donc c'est une nouvelle étude analysée qui compare les succès de 2014 à 2017, menée par Shift 7, fondée par Megan Smith, une conseillère de Barack Obama. Donc je l'ai trouvée vraiment intéressante parce que justement à Hollywood, où c'est beaucoup des hommes qui sont mis en avant, donc il y a aussi le mouvement MeToo, ça vient quand même de là de base. Et bien justement les studios montrent que en fait les femmes portent mieux les blockbusters, qu'il y a donc un changement. Et donc souvent bah, les rôles principaux féminins évoluent et marchent mieux. Donc je peux donner quelques exemples comme Star Wars Rogue One qui est porté par une femme et qui a été un des meilleurs succès des préquels Star Wars, parce que celui-là sur Han Solo a beaucoup moins marché, même si je l'ai bien aimé aussi, mais autre chose. Wonder Woman également, qui a eu beaucoup de succès. Vaiana. Est-ce qu'on parle de la Reine des Neiges? Je ne sais pas, mais...
Bah si.
Je pense qu'il aime très bien marcher voilà. aussi. D'autant plus que ce qui est intéressant avec Elsa, c'est qu'elle n'a pas d'homme qui la sauve dans le film, ni rien. Donc je pense que c'est intéressant d'en parler. Et également, un prochain film qui va arriver, et que j'ai hâte, parce que je suis fan des Marvel, c'est Captain Marvel, qui est portée par l'unique femme et qui est la plus puissante... des héros. Et donc bah, c'est génial, donc ça arrive et voilà, tout n'est pas perdu.
Super. La prochaine bonne nouvelle par Zoé.
Ouais, donc aujourd'hui on assiste à une visibilité plus importante de la charge mentale et j'avais envie d'en parler parce que par exemple au Nikon Festival, Margot Heller a présenté un court-métrage qui s'appelle Je suis la charge. Donc ce concept en fait qui se définit par la charge cognitive qui représente la gestion du foyer et du quotidien, donc qui est le plus souvent menée par la femme, a été popularisé par la BD Fallait demander de Emma. Et parce qu'aujourd'hui cet aspect de la vie de nombreuses femmes a été mis en lumière et juste nommé, on peut le remettre en cause.
Très bien. Et Romane, pour la dernière bonne nouvelle.
Ensuite, je vous propose donc une bonne nouvelle un peu sur un point international. En Inde, dans la région du Kerala, le 2 janvier, deux femmes sont entrées pour la première fois dans un temple hindou suite à l'annulation par la Cour suprême de l'interdiction des femmes entre 10 et 50 ans d'entrer dans un temple. Donc comme quoi, même dans un pays où l'inégalité est très très présente et c'est... assez représenté au niveau international les conditions de l'Inde. On a quand même des avancées, donc tout n'est pas perdu.
On attaque la dernière partie de l'émission et donc on va finir par... On va maintenant parler de quelques recommandations culturelles ou voilà, des choses qu'on a vues chacun, chacune de notre côté et qu'on a envie de partager maintenant. C'est le moment. On a aimé. Alors qui souhaite partager pour commencer ce qu'ils ont aimé voir, faire.
Je peux commencer. Vas-y, j'avais Zoé. Envie de parler du Boys Club, qui est un podcast de Mademoiselle, donc qui parle de masculinité et qui discute avec des hommes de leur rapport à l'injonction à la virilité, du rapport au corps et la relation avec les parents. Donc c'est hyper intéressant, c'est un des premiers sur le sujet. Et mes préférés, si je peux les nommer, c'est ceux de Gringe et Le Pérave, et je vous les recommande vivement.
Très bien, merci beaucoup. Qui enchaîne ?
Eh bien, moi, Aline. Je vais vous présenter donc un film qui s'appelle Les Figures de l'Ombre de Théodore Melfi, qui est sorti en 2016. Pour faire un rapide topo de l'histoire, il met en avant trois femmes afro-américaines au service de la NASA qui vont permettre aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale. Donc tout ça, évidemment, sur un fond d'inégalité femmes-hommes et surtout de ségrégation raciale, parce que... Eh bien, en plus d'être une femme, elle est noire. Donc voilà, c'est vraiment un gros sujet dans le film et ça montre un peu que justement, en fait, elles ont permis de faire beaucoup de choses, d'envoyer sur la... voilà, de faire des avancées spatiales et j'ai trouvé ce film génial. Mmh.
Les Figures de l'Ombre. Merci Aline. Roman ?
Oui, alors moi je vais vous parler d'un roman graphique que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Appelez-moi Nathan », publié dans l'édition Paillot Graphique. Donc coécrit par Catherine Castro et Quentin Jution. Donc c'est l'histoire d'un parcours adolescent de Nathan qui est né Lila qui ne sent pas en adéquation avec son corps et le genre qui lui a été assigné à la naissance. Et donc on voit tout le parcours de à la fois la crise d'adolescence et les rencontres, les amours, les amis, le rapport au corps, etc. Le dessin est vraiment vraiment chouette et l'histoire est très émouvante. C'est à la fois cru et en même temps assez réaliste. Et je pense que chacune peut s'identifier pour des thématiques différentes.
Merci Romane. Et je finis aussi avec trois autres petites recommandations. Pour commencer, la plus ancienne, ça s'appelle, c'est une web série qu'on trouve sur YouTube gratuitement sur la chaîne du Studio 4, qui s'appelle Martin Sexe Faible, et qui justement inverse les rôles, où on voit le héros, le protagoniste qui s'appelle Martin et qui évolue dans une société matriarcale où justement les rôles sont un peu inversés, et où du coup c'est Martin qui doit faire tous les efforts que fait classiquement une femme dans sa vie de tous les jours dans notre société actuelle. Deuxième recommandation pour moi, c'est un podcast audio qu'on trouve sur arteradio.com qui s'appelle Héroïne et ça parle de l'égalité femmes-hommes dans le cadre de l'art contemporain. Et ça part du constat qu'en fait il y a beaucoup plus de femmes qui s'engagent dans des études d'art et que finalement c'est les femmes sont beaucoup moins représentées dans les expositions, dans les musées, dans les toiles qui se vendent cher. Les femmes sont très présentes au début d'un parcours artistique, soit aux études, et ensuite disparaissent complètement lorsque ces artistes sont formés et puis font leur travail d'artiste. Les femmes, une nouvelle fois, sont invisibilisées. Et dernière recommandation, je ne peux pas trop en parler puisque c'est un film qui va sortir mercredi prochain au cinéma. Ça s'appelle Les Invisibles. C'est un film réalisé par Louis-Julien Petit. Et autant pour moi, c'est sorti mercredi dernier. Et le pitch, c'est que ce film Les Invisibles suit un petit collectif associatif de femmes, justement, qui agissent auprès des femmes qui sont SDF. Et justement, ces bénévoles de l'association vont accompagner ce groupe de femmes pour les réinsérer socialement, les réinsérer professionnellement, et puis aussi renouer un lien social qu'elles ont pu perdre en vivant dans la rue. Et il faut savoir que pour le film, les actrices qui vont jouer des SDF sont réellement SDF dans la vraie vie. Et donc voilà, je n'ai pas vu ce film, toutefois je le recommande pour que vous y alliez le voir, pour qu'on en parle. Et pour qu'on discute si c'est un bon film ou un mauvais film, le plus important, c'est qu'on en parle. Voilà, c'est. On passe à la dernière partie de l'émission. Les moments où on peut se revoir, où on peut se retrouver, où vous pouvez venir rencontrer le réseau. Donc, un peu d'actualité, des événements qui vont se passer sur Tours. On commence par. Migrer au féminin, partir, rester, se souvenir. C'est. Du 9 janvier au 28 février à Bibliothèque Centrale de Tours, donc c'est une exposition. Et voilà, c'est du 9 janvier au 28 février, Bibliothèque Centrale de Tours. Ensuite, on a le festival Désir Désir au Cinéma Studio, du 23 au 29 janvier. On a également un One Woman Show par Tani, j'espère que je prononce bien. Ça se passe au KJB et c'est le samedi 19 janvier. Aussi l'actualité du réseau en particulier, on se réunit, on fait des réunions mensuelles et notre prochaine réunion mensuelle c'est le mercredi 16 janvier à 18h30 dans les locaux du Bige, donc l'adresse exacte, Aline, est-ce que tu peux me dire
57 avenue de Gramont à Tours.
Merci beaucoup et si vous ne pouvez pas être disponible pour la réunion mensuelle, on se retrouve sur les réseaux, la page Facebook, réseau des jeunes ambassadeurs, 1, 2, 3... Le réseau des jeunes ambassadrices de l'égalité femmes-hommes, le blog que j'ai abordé tout à l'heure, ambassadrices de l'égalité femmes-hommes.wordpress.com. Et pour finir, on parle un petit peu de nos projets. Donc on a cette nouvelle émission radio que l'on veut mensuelle et qu'on va se tenir à vous la présenter tous les mois. Et également, on a en préparation une action de rue avec un collectif d'associations pour le 8 mars 2019. Et voilà, 8 mars 2019.
Okay. Merci Merlin.
Merci Aline, merci Romane. C'était Ménage-toi Simone. Merci de nous avoir écoutés. Les prochaines émissions Ménage-toi Simone seront les troisièmes samedis de chaque mois, diffusées entre 15h et 16h sur Radio Campus Tours 99.5 et en podcast sur notre site et sur le site de Radio Campus également. Merci.
Merci.
Ah, bonne femme. préfère voir tes fesses que ta gueule. Elles sont plus agréables à regarder.
Justement, est-ce que je pourrais avoir une autre de vos petites putes asiatiques? La mienne est morte.